8h22.
France Inter. Pierre Veil. Le 6-9 de l'été.
La justice des mineurs, c'est le thème du grand entretien ce matin sur France Inter avec deux invités, Axel Vinasac qui a réalisé un documentaire diffusé ce soir sur Arte à 23h30, Les démons de Ludivine, visible aussi sur le site de la chaîne Arte plus 7 pendant 1000 jours. Bonjour Axel Vinasac.
Bonjour Pierre Veil.
Ce documentaire, c'est l'histoire d'une jeune fille de 15 ans face à la justice des mineurs, violence, exclusion du collège, fugue. Alors sur décision d'un juge, elle échappe à un placement en choisissant de marcher pendant plus de 3 mois avec une accompagnatrice. On va y revenir. Autre invité dans les studios de France Bleu Pays Basque à Bayonne, Jean-Pierre Rosenzweig, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes magistrat, ancien président du tribunal pour enfants de Bobigny. Alors Axel Vinasac, pourquoi vous êtes-vous intéressé à cette expérience très particulière vécue par Ludivine, cette marche pendant 3 mois, 1700 kilomètres, je crois, pour échapper à un placement?
Exactement. Alors, je me suis intéressée à cette démarche qui est proposée par l'association Seuil. D'abord, parce que je ressentais en France une mesure, une justice qui était de plus en plus répressive et qui était au détriment de l'ordonnance de 45, visait à malheureusement avoir je reprends, je suis désolée.
C'est-à-dire que vous estimez que la justice est trop répressive, que souvent on a recours à des incarcérations, à des placements, et vous êtes intéressé à cette formule, faire marcher cette jeune fille. Vous avez le sentiment qu'elle a beaucoup changé, qu'elle a évolué au cours de cette marche que vous avez suivie. Ça se passe en Espagne.
Alors, l'association Seuil donc propose cette mesure qui permet aux adolescents qui sont souvent dans des moments charnières, qui ont eu du mal à répondre à d'autres tentatives d'éducation. En effet, de partir marcher pour prendre du recul, avoir un temps pour eux de réflexion. Ludivine, c'était une adolescente qui avait donc eu des problèmes de fugue, des problèmes de violence contre les autres et contre elle-même. La marche, comme alternative à un placement, lui permettait d'avoir ce temps de réflexion et d'exploit. C'est un moment qui, en effet, lui a permis, j'en suis convaincue, aussi avec le travail qu'on a fait ensemble pendant le film.
C'est une jeune fille qui est en souffrance, et d'ailleurs, dans ce documentaire, on l'entend raconter ses souffrances, ses tourments, puisqu'elle nous lit son journal intime.
Elle lit en effet ce journal de bord qui raconte le récit de la marche, mais l'idée était aussi avec elle de faire tout un travail pour aller plus loin, qu'elle puisse réellement se développer, se dévoiler au fur et à mesure. Donc on a entrepris ensemble des jeux d'écriture. Je lui avais laissé aussi un dictaphone pour qu'elle puisse, entre les sessions de tournage, se raconter. Elle a au fur et à mesure réussi à mettre des mots sur sa souffrance qui est grande et à se dévoiler. Elle se raconte, le film lui donne cet espace de se raconter.
Jean-Pierre Rosenzweig, je rappelle, magistrat, ancien président du tribunal pour enfants de Bobigny dans les studios de France Bleu Pays Basque. Vous avez vu ce documentaire d'Axel Vinasac?
Non, honnêtement, je ne l'ai pas vu.
Mais cette expérience, fait de se lancer dans cette tentative, cette marche pendant 3 mois, cette jeune fille avec une accompagnatrice, c'est un procédé que vous connaissez, que les magistrats utilisent souvent?
Oui, je vais vous reprendre sur le mot expérience. En France, chaque fois que quelqu'un fait son métier, on parle d'expérience. Oui. Les travailleurs sociaux, les juges essayent effectivement d'accompagner, de prendre en charge des jeunes autrement que par la privation de liberté, l'incarcération, la violence. Avec ce constat, la marche n'est qu'un support, que ces jeunes sont perdus, ils n'ont aucune estime d'eux-mêmes, ils n'ont aucune estime des autres. Donc dans le faire, dans le fait de marcher, dans le fait de fabriquer des choses, dans le fait de faire des films, enfin j'en passe, c'est des meilleurs, on va les amener à se dépasser, à être confrontés à la nature, à être confrontés à eux-mêmes et surtout à entrer en relation. L'important, c'est l'éducatrice qui accompagne cette jeune. La plupart de ces jeunes garçons ou filles sont en manque de relations humaines, de relations avec les autres et de confiance en eux-mêmes. Voilà. Donc effectivement, là, si on parle maintenant technique, il s'agit d'un CER, d'un centre éducatif renforcé, qui permet une alternative à l'incarcération, mais aussi une alternative à un accueil dans une structure figée dans laquelle de 9h à midi, de 2h à 6h, on apprend à être bien. Là, on vit avec. On retrouve l'esprit de mai 68, hein, de l'antipsychiatrie. Vivre avec les gens pour qu'ils redeviennent des gens et des personnes. La plupart de ces jeunes, ça a été dit précédemment, sont en carence de relations, en carence de confiance. Et effectivement, cette démarche, cette marge de 1700 km, va y contribuer. Ceci dit, s'il fallait régler le problème de la délinquance juvénile en France en faisant marcher tous les jeunes qui sont en difficulté, ça se saurait. Et la marche n'est pas une fin en soi, c'est qu'un temps d'une prise en charge.
Jean-Pierre...
Donc le juge n'hésite pas à y recourir. J'ajoute, pour vous donner une information, qu'au moment où nous parlons, il y a 800-820 mineurs qui sont actuellement incarcérés. Une augmentation d'une quinzaine de pourcents sur les deux ou trois années qui viennent de s'écouler. Donc effectivement, on a des réactions qui sont de plus en plus coercitives, et dans le même temps, un certain nombre de travailleurs sociaux et un certain nombre de juges qui cherchent des alternatives à cette réponse qui est un peu simpliste de la privation de liberté.
Mais Jean-Pierre Rosenzweig, est-ce que les magistrats ont carte blanche comme ça pour proposer des alternatives au placement à l'incarcération ?
Alors heureusement que dans ce pays, les magistrats ont carte blanche, parce que s'ils n'avaient pas carte blanche dans le cadre de la loi, on serait dans un autre pays. Maintenant, la question qui est posée, et vous le savez comme journaliste et observateur, c'est que les magistrats, s'ils n'ont que les code pénal, code de procédure pénale pour travailler, ont les mains nues, il leur faut des services sociaux qui travaillent avec eux, et ouais. L'appel des magistrats Bobigny, il y a maintenant 6 mois, démontre qu'il faut parfois un an et demi, pour qu'une mesure éducative prononcée par un juge soit mise en exercice. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'État, qui donne beaucoup de leçons au département, ne donne pas les moyens aux magistrats de travailler au quotidien. Donc là, il y a un vrai problème. Donc pour répondre à votre question, oui, les juges ont carte blanche, encore faut-il qu'ils aient des moyens éducatifs à leur disposition. Et là, si certains les ont, d'autres les ont pas. Maintenant, il y a aussi des magistrats, et dans le passé, c'est ce qu'ils faisaient. On a hérité de cela, et c'est ce que nous faisions dans ma génération. On construisait parfois des réponses que l'administration ne nous avait pas prévues.
Axel Vinasac, je reviens vers vous. Ce documentaire, Les démons de Ludivine, qu'est devenue Ludivine? Après cette longue marche, elle a retrouvé sa famille, son cadre de vie, et rien n'avait vraiment changé. Aujourd'hui, que fait-elle?
Alors aujourd'hui, Ludivine est dans un foyer. L'idée est dans un foyer continue. C'est pas pour autant que cette expérience de la marche ne lui a pas été bénéfique. Je pense que ce qui était important pour moi dans le film, c'était de raconter justement cette prise en charge individualisée de long terme, mais qui a réellement permis à Ludivine d'avoir un temps d'éveil, en fait, un temps où l'itinéraire était balisé, mais elle a pu aussi découvrir les paysages et aussi enfin mettre des mots sur ce qu'elle ressentait. Ce temps n'est pas perdu, c'est pas parce que les conditions, en fait, à son retour sont restées les mêmes et qu'elle a à nouveau eu des difficultés tant dans la relation avec ses parents qu'avec son environnement, ses amis, que cette expérience n'est pas bénéfique pour Ludivine.
Jean-Pierre Rosenzweig, le fait que cette jeune fille qui a donc participé à cette marche pendant 3 mois, bon, finalement, les problèmes sont toujours là. Est-ce que ça vous surprend?
Bien sûr que non. Comme quand vous êtes malade, c'est pas un cachet d'aspirine qui va régler vos problèmes. Oui. Ça va atténuer un petit peu vos difficultés, mais il faut s'attaquer au fond des choses. Vous pouvez pas imaginer qu'en 3 mois, même si ça coûte cher par jour, hein, je vous rappelle que ça coûte 200 euros par jour et par mineur, vous pouvez pas imaginer qu'en 3 mois, vous allez remonter une pente que vous avez mis des années à descendre. Donc il va falloir 3 ans, 4 ans, 5 ans pour que petit à petit, cette jeune fille retrouvant l'estime d'elle-même, une confiance en elle, confiance dans les adultes, va retrouver certaines perspectives de vie. Alors elle fera pas Sciences Po, elle fera pas Polytechnique, mais faut-il faire Sciences Po et Polytechnique pour être heureux dans la vie? Eh ben, elle va retrouver une capacité à nouer de la relation, à faire, à entreprendre. Tout ça, c'est un travail long terme. La difficulté, là je rejoins les débats politiques, c'est que les départements et l'État entendent arrêter toute intervention à partir de 18 ans. Comment voulez-vous qu'un gamin qui a eu d'énormes difficultés autour de 7, 8 ans, 10 ans, qui les a traduites par des bêtises qu'il a faites à l'égard d'autrui autour de 12, 13, 14 ans, comment vous pouvez imaginer qu'à 18 ans, il est capable de se mouvoir tout seul dans la vie, de ne dépendre de personne? Certes, il a le droit de vote, mais une fois qu'on a dit ça, il n'est pas encore inscrit dans la société. Il faut continuer à aider ces jeunes jusqu'à 21, 22, 23 ans. La question politique qui est posée, on l'a vu au Parlement avec la loi Bourguignon qui a été votée en catastrophe au mois de juin et d'une manière aberrante, et c'est pas les jeunes qu'il faut aider jusqu'à 18, 21 ans, c'est 18, 25 ans. Il faut prévoir que des jeunes qui sont en difficulté, qui ont été suivis ou qui n'ont pas été suivis par la justice, puissent trouver un accompagnement social. C'est ça la question politique qui est posée. Et dans la situation de cette gamine, il faut au moins 3 ans, 4 ans, 5 ans avant qu'elle retrouve un équilibre qui lui permette de vivre et de vivre bien.
Jean-Pierre Rosenzweig, la réforme de la justice des mineurs, c'est un des grands dossiers politiques de la rentrée. Une ordonnance sera présentée mi-septembre, il y aura un débat parlementaire et la réforme entrera en vigueur dans un an. La garde des Sceaux propose...
En 2021, il est prévu qu'elle intervienne, cette réforme, en 2021.
2021, la garde des Sceaux propose d'introduire le principe de l'irresponsabilité pénale jusqu'à 13 ans, mais les juges pourront faire exception à ce principe, mais voilà, devront
le motiver. C'est ce que j'allais vous dire. On pose un principe et on prévoit son exception. Ça, c'est très français.
Oui.
Ça, c'est très, très français. On affiche un grand principe et on prévoit qu'on puisse faire le contraire. C'est-à-dire qu'on pense être gagnant des deux côtés, quoi. C'est une avancée de poser un seuil d'âge, 13 ans, sous lequel on ne puisse pas être délinquant. C'est d'ailleurs l'exigence de la Convention internationale sur les droits de l'enfant. Vous savez qu'aujourd'hui, on estime qu'un enfant à 7, 8 ans a le discernement. Mais le juge, le procureur n'est pas obligé de le poursuivre et le juge n'est pas obligé de le condamner. Désormais, on va venir dire qu'avant 13 ans, on ne peut pas être pénalement responsable, sauf si le juge l'estime. En réalité, c'est kiff-kiff bourricot. Rien n'a changé, rien ne va changer. Les juges et les procureurs et les juges feront ce qu'ils auront envie de faire en fonction de la situation dont il s'agit. La question qui est posée, c'est celle-là. C'est si avant 13 ans, la justice n'intervient pas, et effectivement, un enfant de moins de 13 ans est plutôt un enfant en danger qu'un enfant délinquant, la question est de savoir qui va intervenir. Certainement pas les parents qui sont en grande difficulté, sûrement les services sociaux, soit municipaux, soit départementaux. La question qui est posée est donc, est-ce qu'on s'apprête dans le projet de loi à mobiliser les services sociaux, territoriaux, communaux ou départementaux, avec éventuellement le transfert des charges que ça peut représenter. Ça a l'air de rien. C'est une réforme apparemment très technique et très juridique, qui n'a pas la portée qu'on a bien voulu dire, mais qui a une implication très importantes sur les territoires. Qu'est-ce qu'on va faire, par exemple, de jeunes qui sont à 12 ans dans un hall d'immeuble, qui embêtent tout le monde, qui font parfois de grosses bêtises? Si on ne peut plus les poursuivre pénalement, il faut bien que quelqu'un intervienne. Soit le juge pour enfants en assistance éducative, parce que ces enfants sont en danger, mais à ce moment-là, c'est le département qui va devoir les prendre en charge, soit c'est la municipalité dans le cadre des clubs et équipes de prévention.
On va créer aussi, d'après les moutures de ce texte qui circule, on va créer une vingtaine de centres éducatifs fermés supplémentaires. Est-ce que c'est une bonne chose ?
Bah, écoutez, François Hollande, devenant président, ou vous pourrez être président, avait promis le doublement des centres éducatifs fermés, il n'y est pas parvenu. Son successeur, qui ne prononce pas son nom, dit qu'il va doubler les centres éducatifs fermés. Donc on passerait de 40 à 80. En réalité, on a réduit le plan, on est à une vingtaine. Un centre éducatif fermé, ça prend en charge une dizaine de jeunes, entre 10 et 12 jeunes. Il y a environ 65 000 jeunes qui sont pénalement poursuivis chaque année et environ 210 000 qui commettent des délits. Sur 210 000 qui commettent des délits, 70 000 sont poursuivis. Et les centres éducatifs fermés représentent actuellement 40 que multiplient 10, donc une potentialité d'accueil sur l'année de 1500-1600. Vous voyez bien que c'est pas à la hauteur des 65 000. Et on retombe sur l'appel de Bobigny. La plupart des gosses qui sont en situation difficile, qui sont délinquants, sont suivis par les éducateurs de rue et par les éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse. Quand vous êtes malade, a priori, vous êtes suivi non pas par l'hôpital, mais par le médecin de quartier. Si vous créez des hôpitaux sans créer de médecin de quartier, il y a un problème. Ben, c'est exactement la difficulté à laquelle nous sommes confrontés dans la justice. Créer des centres éducatifs fermés en négligeant que la mesure de base, c'est la liberté surveillée exercée par le service social territorial est une erreur politique majeure. Ces centres peuvent être utiles pour quelques jeunes. Mais on vient de le voir à l'instant à travers l'exemple de cette jeune fille. Ce n'est pas une fin en soi. 1500 enfants qui sont suivis pendant 4 mois, 5 mois, ce n'est pas une réelle prise en charge. Il y a un amont, il y a un aval. Et c'est cet amont, cet aval sur lequel il faut investir actuellement. Et je pense qu'on n'a pas les moyens de recruter les éducateurs qui nous seraient nécessaires. On ne fera pas l'effort politique et financier pour le faire. Il faut donc mobiliser la société civile. Il y a un certain nombre de gens dans ce pays qui sont capables d'accompagner, d'accueillir, de soutenir des enfants qui sont en difficulté en lien avec les travailleurs sociaux professionnels. Ça serait une vraie réforme. En d'autres termes, pour répondre à votre question, la réforme de l'ordonnance de 1945 n'a strictement aucun intérêt. La question est de savoir est-ce que les mesures qui sont prononcées par les juges vont enfin être exercées. C'est pas changer la loi qui va garantir l'exercice de ces mesures, c'est mettre plus de moyens au service de la justice.
Et plus de moyens, c'est plus de personnel ?
C'est plus de personnel, mais je viens de vous le dire à l'instant, pas nécessairement plus de personnel fonctionnaire, fonctionnaire public ou travaillant pour des associations comme celle que je préside. Non, il s'agit de développer une capacité de mobilisation de la société à travers des associations, des militants de quartier, des gens qui ont envie. Ce que j'ai fait, par exemple, quand nous avons inventé les opérations d'été en direction des jeunes en difficulté dans les années 82-84, on a fait appel aux paysans du Larzac, on a fait appel aux pêcheurs de l'île de Ré, on a fait appel à des centres de formation de l'armée, c'est-à-dire à une série de gens qui avaient une capacité à accueillir et à accompagner ces enfants. Et je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport à cette jeune fille, ces enfants qui sont en manque de relations humaines. Il ne s'agit pas, j'allais dire, de leur apprendre à lire ou à écrire, j'allais dire, par la violence, par la force, par la menace. Il s'agit de leur rendre de l'estime d'eux-mêmes, c'est-à-dire de la relation. Voilà. Alors ça passe par des hommes et des femmes, pas obligatoirement par des professionnels bien évidemment, des psychiatres, des psychologues, des éducateurs, des juges, bien évidemment, mais aussi par monsieur et madame tout le monde, qui sont capables d'accueillir et d'être et de vivre avec un enfant.
Axel Vinasac, cette jeune fille, Ludivine, a été accompagnée dans cette longue marche par une jeune femme qui travaille pour une association qui est donc spécialisée dans l'accompagnement de jeunes en difficulté.
Exactement, l'association SEI, qui existe depuis plus d'une quinzaine d'années en France, propose justement ces marches éducatives à destination des adolescents qui sont soit suivis par la PJJ, soit l'aide sociale à l'enfance, donc au pénal ou au civil, dans le cadre de la justice des mineurs. Ils permettent aussi à les accompagnants qui prennent en charge les jeunes et qui vont marcher avec eux et donc vivre cette expérience avec eux, sont des éducateurs spécialisés, mais pas seulement. Il y a aussi toutes sortes de personnes ayant une expérience éducative, ce qui permet en effet, comme disait Jean-Pierre Rosenweg, de nouer réellement un lien avec les adolescents.
Et justement, au standard 0145 24 7000, le fondateur de l'association Seuil est en ligne avec nous. Bonjour Bernard.
Bonjour.
Vous vouliez intervenir ?
Oui, je voulais intervenir parce que effectivement, il y a en France des milliers et des centaines de milliers de gens. Il y a 200 000 jeunes qui sont en danger ou en difficulté. Parmi eux, il y a un certain nombre de cas qui sont extrêmement difficiles. Et Seuil, c'est en quelque sorte ce prend en charge des jeunes pour lesquels on n'a pas trouvé de solution, et un tiers à peu près des jeunes que nous faisons marcher sortent de prison, sont en alternative à la prison ou sortent de prison aménagement de peine. Eh bien, la difficulté que nous avons, c'est que, d'abord, nous avons des résultats, hein, 85% des jeunes, et c'est un cabinet indépendant qui l'a décrété, 85% des jeunes reviennent avec un projet. Eh bien, nous sommes autorisés pour le moment à faire marcher 35 jeunes par an. Nous pourrions emmener le double. On nous dit au ministère de la Justice qu'il n'y a pas d'argent pour emmener davantage de jeunes. Et en même temps, le ministère de la Justice crée 22 centres éducatifs fermés qui s'ajoutent aux 50 qui existent déjà. Et donc, l'argent pour enfermer, on trouve, mais l'argent pour aérer, si j'ose dire, pour aider des jeunes à respirer un peu et à se remettre un petit peu en selle, alors que je vous le dis, nous ne prenons que des cas désespérés. Eh bien, ceux-là, il n'y a pas d'argent, si, sauf pour les mettre en prison. Donc je trouve qu'on est complètement dans l'incohérence et que nous bataillons depuis des années avec le ministère de la Justice pour obtenir davantage de crédit. Nous avons plein de personnes qui sont prêtes à emmener des jeunes, ce sont des salariés, hein, des gens que nous salarions, et, mais on ne peut, pour le moment, on n'a plus de possibilités, on n'a pas davantage de possibilités.
Merci. Merci.
Et d'ailleurs, nous perdons de l'argent sur chaque marche, et ce sont des fondations qui nous aident, sinon nous ne pourrions pas continuer notre travail.
Merci d'avoir témoigné sur France Inter, Bernard. Laurent nous appelle et voulait intervenir dans l'émission Il écoute France Inter. Bonjour Laurent.
Bonjour Pierre.
On vous écoute.
Moi j'ai le souvenir de colonies de vacances, de camps de préados dans lesquels il y avait des jeunes qui venaient du centre départemental de la protection de la jeunesse. On était mélangés, ça les sortait un petit peu de leur prison et on participait à des projets éducatifs pendant ces colonies. Alors moi je pense qu'il y a peut-être un parallèle entre la fin des colonies de vacances pour les enfants qui n'avaient pas les moyens de partir en vacances, dans lequel il y avait un accompagnement social, il y avait des projets, et il y avait une façon, une possibilité d'exprimer, d'extérioriser un petit peu la douleur qu'ils avaient. Et voilà. Et maintenant aussi la métropolisation. Hein, on vit de plus en plus dans les villes, on n'a plus de lien à la nature. Il y a des pays dans lesquels, dans le parcours éducatif, que ce soit en Suisse ou en Angleterre, les jeunes participent à des chantiers de bénévoles ou dans l'action sociale, dans la protection de l'environnement, et en plus c'est valorisant, et on les enferme pas, ils participent, ils sont dans une dynamique collective. Et ça marche pas seulement dans les structures salariales. Il y a aussi des dispositifs, comme disait, que je sais plus qui me retourne ça avec les paysans. Oui. Il y avait dans la conscience collective du style, on va accueillir des gens, on va faire des choses ensemble. Et c'est pas toujours en passant par le département, les structures professionnelles qui en fait font du gardiennage, qu'on va résoudre les choses. Des fois, c'est
merci.
Très simple. C'est
des merci fois, c'est Laurent.
Voilà, c'est la solidarité à la base.
Sur ces témoignages, réaction de Jean-Pierre Rosenzweig, je rappelle, magistrat, ancien président du tribunal pour enfants de Bobigny, qui est à Bayonne.
Première remarque, c'est que ça démontre là encore ça confirme ce que je disais tout à l'heure. C'est l'actualité, l'urgence, c'est pas de changer la loi, mais de la mettre en œuvre. Arrêtons de changer les lois toutes les 5 minutes et posons-nous la question de savoir pourquoi elles dysfonctionnent et pourquoi on n'arrive pas à les mettre en œuvre. Deuxièmement, il faut faire appel à des professionnels, ça c'est évident, donc renforcer les moyens, mais il faut faire aussi appel à la société civile. Et quatrième remarque générale, attention à dire cette solution est bonne, celle-là est mauvaise. Non, il faut une gamme de réponses. Pour chaque individu, il faut faire du sur-mesure. Il faut que le juge pour enfants, qui est un tailleur, arrive à construire avec les travailleurs sociaux le bon costume répondant à telle situation d'un jeune qui par ailleurs va évoluer. Donc effectivement, les colonies de vacances, ça peut servir pour quelques jeunes, mais pour cette jeune fille dont il s'agit, c'était abracadabrant de l'inscrire dans une colonie de vacances. Il fallait lui faire une réponse qui soit adaptée. Il faut que le juge, ça rejoint la question que vous posiez tout à l'heure, il faut que le juge, pour défendre la liberté, il faut qu'il puisse être lui-même libre de mobiliser les moyens qui sont adaptés à la situation. Donc faisons confiance aux juges pour enfants, aux procureurs, aux juges pour enfants, aux travailleurs sociaux, donnons-leur les moyens, c'est-à-dire non pas donnons-leur des chèques avec de l'argent, mais débloquons les obstacles qui les empêchent de construire des réponses qui sont adaptées. Pour l'instant, on joue petit pied, petite main, on est étriqué, on a peur, voilà, c'est tout.
Beaucoup
et donc,
de questions.
Quand on a peur, on ne parle que d'enfermement.
Juste un mot, beaucoup de questions d'auditeurs, des courriels. Actuellement, il y a plus de 843 mineurs incarcérés dans les prisons françaises. La délinquance des mineurs, elle augmente.
C'était 700 il y a maintenant 2 ans. La délinquance juvénile n'augmente pas, monsieur. Elle diminue. Je lisais encore le rapport du ministère de la Justice pour proposer la réforme de l'ordonnance de 1945. Au jour d'aujourd'hui, la délinquance des mineurs représente 13% de la délinquance globale. Ouais. En 2000, elle était à 17%. En 1995, elle était à 24%. En d'autres termes, la délinquance juvénile, globalement, en toute proportion gardée, baisse. Elle n'est pas en train d'augmenter. La vérité, en revanche, est de dire qu'elle est parfois plus dure qu'elle n'a été, c'est-à-dire plus violente. Concentrée sur un certain nombre de jeunes, sur relativement peu de jeunes. Beaucoup de jeunes violent la loi, mais ne sont pas délinquants. Être délinquant, c'est être inscrit dans une séquence de délinquance où on passe son temps à être hors la loi. Ces jeunes-là sont très très peu nombreux et on doit pouvoir les aider par des parcours de prise en charge.
Merci Jean-Pierre Rosenzweig, magistrat, ancien président du tribunal pour enfants de Bobigny. Merci Axel Vinassac. Je rappelle ce documentaire ce soir sur Arte à 23h30. Les démons de Ludivine, l'histoire de cette adolescente qui a marché pendant 3 mois, 1700 km pour échapper à une procédure de placement. Merci beaucoup.
Merci.